France Inter.
Merci et le prochain flash, ce sera dans une heure à 15h sur France Inter.
Si Kiki ne fait pas partie de l'espèce canine racée, par contre, c'est un spécialiste de la racine carrée.
Actuellement, vous entretenez combien de puces ?
J'ai toujours entre 150 et 200 puces.
Racine carrée de 4.
C'est désagréable, hein ? Même dans mes beaux placards de ma cuisine, j'ai des qu'à faire.
Et pour finir, sachez qu'un mammouth l'a échappé belle en Sibérie.
Les animaux sont des êtres vivants qui sentent, souffrent, agissent et subissent. Dans cet épisode poignant, il va être question des animaux au service de l'homme. Un service la plupart du temps forcé. Les guerres ont été dévoreuses de bêtes. Les campagnes l'ont été aussi avec les animaux de rente. Les mines ont abrité pendant plus d'un siècle des équidés. Certains ne voyaient pas le jour pendant 10 ans. Et puis les transports ont utilisé des milliers de chevaux, d'ânes ou de mules. 17 000 chevaux sillonnaient Paris pour le service d'omnibus à la fin du 19e siècle. À côté des hommes, les animaux, ces autres vivants, ont participé et participent encore à de grands événements. Pour nous raconter ces histoires, pour nous faire ressentir le vécu des bêtes au travail, un historien, professeur à l'Université de Lyon, spécialiste de l'histoire des animaux, Éric Baratet. Éric Baratet s'empare du sujet depuis 40 ans avec une empathie qui rend ses récits bouleversants.
Les aventuriers sur France Inter.
Bonjour Éric Baratet.
Bonjour.
Alors que ce soit pour le lait, la viande, la traction, le travail au champ, dire que les hommes exploitent les animaux depuis la nuit des temps, c'est une évidence.
Oui, bien sûr. Toute la civilisation humaine s'est construite en grande partie sur cette exploitation du monde animal. La révolution industrielle, par exemple, entre 1750 et 1850, est construite sur les matières animales, la révolution agricole, la révolution des transports avant qu'il y ait le train. Oui, nous sommes au moins jusqu'au 19e siècle, nous sommes largement redevables de ces animaux.
Et depuis l'Antiquité ?
Ou peut-être même avant, mais au moins depuis l'Antiquité.
Et voilà de quoi il va être question dans cette émission. On commence, Éric Baratet, avec les animaux à la guerre. Les animaux sont utilisés sur les champs de bataille depuis des millénaires.
Oui, au moins depuis le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, avec l'invention des chars, tirés donc par des ânes ou des chevaux. Alors ces chars, on les utilisait souvent pour aller vite à un endroit, et puis le soldat descendait et guerroyait avec son adversaire à pied. Et puis ensuite, c'était l'invention de la cavalerie au premier millénaire, qui a changé beaucoup de choses, évidemment, parce que ça a permis d'aller à certaines troupes d'aller beaucoup plus vite. Ça a permis, par exemple, les grands empires, par exemple des Mongols ou des Huns, qui étaient des empires de cavaliers.
Ces empires se sont donc bâtis grâce aux chevaux. J'ai lu quelque chose qui m'a étonné. On utilisait même des chats pendant les guerres en Égypte, des chats qui portaient des messages.
Oui, des chats, des chiens, des pigeons. Dès l'Antiquité, on utilise effectivement ces animaux-là. Alors les chevaux, c'est pour tirer. Les autres animaux, c'est pour les messages. Il y a aussi des animaux combattants. Ce sont notamment les chiens, qui sont entre l'Antiquité et jusqu'au XVIe siècle, qui sont utilisés comme chiens d'attaque, qui ont été éduqués pour attaquer, mais vraiment s'en prendre aux adversaires. Et ce sont des animaux extrêmement redoutés.
Alors quand on vous lit à propos des animaux au combat, c'est dur parfois.
Oui, alors évidemment, si on se tient uniquement du côté des humains, on a l'impression qu'on utilise ces animaux un peu comme des outils. Mais si on regarde ce qui se passe du côté des animaux, alors là, on s'aperçoit évidemment que ça peut être très dur pour eux. À la fois la fatigue de ce qu'on leur demande, la longueur des chevauchées, par exemple, souvent mal ravitaillés, et puis les combats avec des blessures, beaucoup de blessures. Par exemple, un autre animal utilisé dans les guerres antiques, c'est l'éléphant. Les éléphants au combat, l'une des parades, par exemple, que les Romains trouvent contre les Carthaginois ou contre d'autres troupes ennemies, c'est de cisailler les tendons des pattes des éléphants. Donc vous voyez, après la douleur, d'ailleurs ces animaux deviennent extrêmement furieux de douleur, s'en prennent même à leur propre camp, et donc ce sont des vécus extrêmement durs.
Et que faisaient les Gaulois pendant les guerres? Comment utilisaient-ils les animaux? Ils avaient des chevaux, ils avaient des chars?
Alors ils ont eu les chars jusqu'à peu près au milieu du premier millénaire, et puis ensuite ils sont passés à la cavalerie, parce qu'évidemment la cavalerie permet des rayons d'action beaucoup plus longs. Avec l'inconvénient, c'est qu'à l'époque il n'y a pas de selle, il n'y a pas d'étrier, donc il faut faire ça à cru, hein, et c'est relativement difficile à la fois pour le cavalier, mais aussi pour l'animal.
Pour l'animal, oui. Alors il y a une époque qui a été très 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 documentée, c'est la Première Guerre mondiale.
Oui, parce que c'est la guerre qui a, dans l'histoire, le plus employé d'animaux avant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est encore mal étudiée de ce côté-là, mais il semble qu'elle en ait encore employé plus. Mais là, en 14, c'est déjà un véritable apogée. Hein. Jamais on a employé autant de chevaux, de mulets, d'ânes, à peu près 200 000 chiens, plusieurs milliers de pigeons. Donc ça a été absolument énorme, et avec un vécu, alors là, extrêmement dur, mais j'allais dire exactement comme les soldats dans les tranchées, hein, ça a été dur pour les uns et pour les autres.
Alors en 1914, 730 000 chevaux ont été réquisitionnés, ils ont perdu leur repère habituel, ils étaient au champ ou dans des fermes, ils se retrouvent au combat, ils doivent même s'adapter à leur nouveau nom.
Oui, il y a un bouleversement total parce que effectivement ils perdent tous leurs repères. Ils peuvent perdre la langue, effectivement, hein, s'ils viennent de Bretagne et que leur maître s'exprimait en breton et qu'ils tombent sur un nouvel artilleur qui parle en patois auvergnat, le cheval ne comprend plus rien. Et il va y avoir un véritable traumatisme moral qui va se traduire par une très forte mortalité dont les vétérinaires vont se rendre compte à peu près en septembre. Ils vont se dire, c'est pas la guerre qui a tué énormément de chevaux pendant l'été, c'est ce traumatisme, plus ce qu'on va leur demander en centaines de kilomètres par jour, et ils ne sont pas faits pour ça.
Un homme a beaucoup écrit sur le sujet, c'est Maurice Genevoix. Je vous propose un extrait de ce 14, lu par Maurice Genevoix dans l'émission Le Bestiaire sans oubli, diffusée le 14 septembre 1971 sur France Culture.
J'ai voulu dire aussi la passion des bêtes dans la guerre, des chats errants, des vaches perdues, des chevaux. De celui qui criait dans la nuit, en avant du bois de Saint-Rémy, parmi les blessés abandonnés. Et comment s'effacerait la vision de cet autre cheval, un Allemand, une bête de selle, magnifique, alezan clair, presque doré, lumineux, des attaches déliées et pures, une encolure gracieuse et souple, des yeux encore ardents, qu'une buée triste commençait à éteindre. Dans la forêt où pénétrait la route, la fusillade crépitait, étouffée par l'épaisseur des arbres. Les premières balles hachaient le taillis. Lui, il était debout au milieu de la chaussée. Je me suis retourné pour revoir cette créature splendide, pour l'admirer une fois encore, étreint par une angoisse où l'imminence du combat n'était pas seule à me serrer le cœur, car une de ses jambes de devant, déchirée à hauteur du poitrail, ruisselait de sang jusqu'au sabot. Quand se coucherait-il dans ce sang, cheval mort au milieu de la route?
Oui, ça serre le cœur, Éric Baratet.
Oui, et en plus, Genevoix est l'un de ceux qui remarquent le mieux les animaux et le vécu et la condition et la souffrance des animaux. Son témoignage de 14 est absolument remarquable, à la fois pour les hommes, mais aussi pour les bêtes.
Il y a eu près de 2 millions de chevaux mobilisés pendant la Première Guerre mondiale.
Uniquement en France, à peu près 1,8 million, et il y a eu 40% de mortalité. Alors la mortalité a été très forte en France, comme en Allemagne, moins forte en Angleterre, parce qu'on se faisait plus attention aux chevaux déjà à l'époque, on était plus sensible aux animaux, mais c'est vrai que ça a été un taux de mortalité énorme, hein, et s'il avait été appliqué aux humains, on aurait eu 4 millions de morts côté français.
Avec des harnachements pas du tout adaptés.
non, pas du tout adapté. Et puis, c'est surtout les conditions de la guerre qui font que ces harnachements ne sont pas adaptés. On pense à une guerre courte, on se retrouve avec une guerre longue. Et puis, par exemple, l'été 14, avec des cavaliers qui ne descendent pas de selle, qui marchent, ou qui ne décèlent pas lorsqu'on s'arrête, parce que si jamais il y a un coup, une embuscade, il faut pouvoir dételer. Résultat, les dos des chevaux sont littéralement rabotés par les selles, et ça peut aller, Céline en parle dans Voyage au bout de la nuit, ça peut aller jusqu'aux muscles, jusqu'aux os pour les chevaux.
Et justement, François Vallat, qui est historien et vétérinaire, et que vous connaissez bien, raconte de quoi souffraient les animaux à la guerre. Il parle de ces douleurs de dos.
Alors on pourrait penser qu'à la guerre, les chevaux ont subi des obus, des brûlures, des impacts de balles, certes, mais le pire venait de la plaie de harnachement. Lorsqu'un animal maigrit, le harnachement ne lui va plus, c'est comme une sorte de paire de chaussures qui serait trop petite ou trop grande. Et il se forme des excoriations de la peau qui se mettent à suppurer. Il faudrait les soigner tout de suite, mais malheureusement, les circonstances des opérations font que on ne peut pas s'en occuper. Et on a beaucoup de témoignages de militaires qui ne pouvaient pas desceller les chevaux. Parce que le déceler, c'était faire venir toute la peau avec la selle, par exemple. Et donc, les chevaux étaient pratiquement condamnés. C'était absolument atroce.
Et donc, qu'est-ce qui se passait pour ces chevaux? Ils étaient abattus?
J'ai le souvenir d'avoir fréquenté un vétérinaire qui avait fait la campagne d'Italie pendant la dernière guerre mondiale et qui m'expliquait que les Américains avaient des mules et que ces mules avaient des plaies de harnachement terribles et qu'on les séparait en deux parties. Des mules qu'on pouvait opérer, ils les opéraient, pour essayer de les remettre au travail, et d'autres qui étaient condamnés, et qu'on abandonnait, en fait, dans un pré. Et vu que c'était en Italie, c'était au soleil, eh bien, la plupart ont fini par guérir.
C'est terrible ce qu'il raconte, François Vallat, même si ça se termine un peu bien.
Ben le sort des chevaux était extrêmement dur. On parle aussi des ânes, des mulets, qui étaient fréquemment, effectivement, abandonnés le long des routes, hein, lorsqu'ils ne pouvaient plus suivre. Un cheval va jusqu'au bout de ses forces. Et lorsqu'il s'arrête, soit il s'arrête de crise cardiaque, il va tomber, soit il ne peut plus avancer. Les hommes, à l'époque, le savent, donc on le dételle, on le met de côté, et il va rester là, il va mourir.
Donc, les chevaux, les ânes, les mules, les chiens, vous en avez parlé un peu, ils ont été très utilisés pendant la Première Guerre mondiale.
Oui, il y a eu un retour de l'utilisation des chiens. Les chiens avaient été plus ou moins abandonnés à partir du XVIe siècle à cause des armes à feu. Parce que ces chiens de combat qui attaquaient l'ennemi, bah, l'ennemi pouvait les abattre avant même qu'ils n'arrivent. Donc, ils avaient perdu leur intérêt. Et en 14, on les relance comme chiens sanitaires, pour retrouver des blessés, comme chien messager, comme chien surveillant dans les tranchées, ou chien porteur de grenades, d'obus, etc.
Et pendant la Seconde Guerre mondiale, on les utilise aussi?
On les utilise, les Américains par exemple en ont beaucoup utilisé pour reconquérir les îles du Pacifique, des îles qui étaient recouvertes de forêts vierges et dans lesquelles les Japonais pouvaient facilement se cacher. Et donc, les chiens servaient à repérer, là aussi, l'ennemi par le bruit, par les odeurs, pour éviter que les soldats se fassent massacrer.
Ces chiens, certains étaient un peu choyés, quand même, dans la mesure du possible.
Oui, alors, il y a les chiens de travail, et puis il y a les chiens qui sont, par exemple, pour la Première Guerre mondiale, qui arrivent dans les tranchées, des chiens, des chats, des oiseaux, etc., et qui vont servir de réconfort psychologique pour les soldats. On voit ça en Ukraine de nos jours. Hein. Alors là, ces chiens ou ces autres animaux sont beaucoup plus choyés, évidemment. On leur demande pas de travailler. Et là, il y a des témoignages remarquables, notamment d'un chat qui est sur un parapet tranché, qui fait sa toilette tranquillement sur le parapet. Et personne ne tire dessus, ni les Allemands, ni les Français. Tout le monde le respecte. Hein, et la personne qui raconte ça dit « Mais si moi, j'avais monté mon casque de 3 cm, j'aurais reçu une balle dans le fond ».
Parmi ces animaux choyés, Eric Baratet, il y en a un qui est devenu célèbre, c'est Rintintin.
Alors, Rintintin, c'est un chien allemand, au départ, un berger allemand. Hein, c'était la spécificité de l'armée allemande qui avait inventé cette race un peu auparavant. Et qui, en 18, survit à un bombardement d'un chenil. Ces chiens-là devaient servir pour être surveillants, etc. Et lorsqu'un sergent américain arrive dans ce chenil, à peu près 90% des chiens sont morts, et il trouve trois petits chiots. Et parmi ces petits chiots, il y a le futur Rintintin qu'il arrive à ramener aux États-Unis clandestinement parce que c'était interdit. Et puis il se rend compte de ses capacités de ce chien et il en fait une vedette de cinéma.
Rintintin, Rintintin, ici!
Laissons Rintintin diriger l'affaire. Préparez-vous à le soutenir s'il peut passer. Rusty, rappelle-le!
Laisse, Rintintin, laisse!
Qui rêve encore de l'Amérique? Ce shopping mall pas démocratique. Tout est si différent maintenant. Mais qui peut encore rêver tout court quand tout est flippant aux alentours? Tout est si différent maintenant. Patiemment la fin du monde. Quelle liberté d'être condamné après ces années de culpabilité. Agissons enfin sans conséquence. Salut patron, on se verra en vacances. Tout est si différent. La fin du monde. Tout est si différent maintenant. En attendant, bien patiemment, la fin du monde, la fin de nous. Nouveaux dinosaures, on finira au musée dans un décor. Et sur la pancarte en gros caractère, homme en terrasse buvant un verre et qui attend bien patiemment la fin de son air.
Dinosaures, c'était Séverin.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Nous sommes avec Éric Barathès, spécialiste des animaux, historien. Éric Barathès, chevaux, bœufs, ânes, dromadaires, chameaux, jusqu'au début du XXe siècle, pour se déplacer, on avait besoin des animaux.
Oui. Alors, beaucoup de gens se déplaçaient à pied, évidemment, hein, notamment les plus pauvres. Mais les animaux étaient absolument fondamentaux pour le transport, que ce soit transport des marchandises ou transport des humains.
Depuis l'Antiquité, encore une fois.
Même avant l'Antiquité, hein, sans doute à partir de la néolithisation, de même les premières domestications. Alors, jusqu'au XVIIIe siècle, il semble que le transport le plus important, c'était le bât, c'est-à-dire l'animal batté, hein, qui portait sur son dos soit une personne, soit beaucoup de marchandises.
Le bât, c'était plutôt les ânes, les mules, les
chevaux. Ça pouvait
aussi
être aussi les petits chevaux. Il y en avait aussi, et c'était important parce que beaucoup de routes n'étaient pas en très bon état, c'était des petits sentiers muletiers, notamment dans les régions de montagne, donc le bât a été extrêmement important jusqu'au XVIIIe siècle, et ensuite il a été vraiment, non pas remplacé, mais largement dépassé par tout ce qui est voitures,
diligences, carrioles, etc.
Voilà.
Comment étaient traités ces animaux ?
Bah, ça dépend les conditions, ça dépend les maîtres. Alors le travail est plus ou moins facile. Pour les chevaux, par exemple, de diligence, c'est un travail assez épuisant, hein, puisqu'on les fait aller assez vite pour tenir les relais, d'un relais à l'autre. Alors ils sont changés régulièrement, hein, lors des relais de poste. On enlève les chevaux qui sont épuisés, on en met de nouveaux, etc. Mais il y a des aspects, par exemple les chevaux boulonnés pour le chasse-marée, hein, mmh. Ce sont les chariots garnis de poissons de la Manche, voilà, et qu'on emmène à Paris.
Voilà.
Et donc ces chevaux doivent pas galoper, mais trotter d'un bon pas sur toute la distance.
Et ils tiraient de grosses charges.
Donc c'était des efforts physiques extrêmement importants. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a, au XIXe siècle, adapté, transformé, en l'augmentant en taille, en force, en poids, la race boulonnaise, hein, pour en faire un cheval de trait important.
Le fer à cheval est apparu quand ?
Alors le fer à cheval, c'est entre 8e et 10e siècle après Jésus-Christ, hein, donc disons milieu du Moyen-Âge. Ça a été une invention extrêmement importante parce que ça a permis aux chevaux ou aux mulets d'aller dans des endroits où ils ne pouvaient pas, en n'étant pas ferrés. Ça a limité un petit peu l'usure aussi des sabots, hein, parce que c'est quand même très important pour les chevaux. Ça a permis aux animaux d'avoir des assises plus importantes, donc ça veut dire qu'ils pouvaient tirer plus ou porter plus.
Au XIXe siècle, il y avait un véritable service d'omnibus à Paris, notamment, qui existait grâce aux chevaux. J'aimerais bien que vous nous racontiez ça.
Oui, alors ça a commencé au XVIIe siècle. Les premières lignes parisiennes se mettent en place au XVIIe siècle, mais ça explose vraiment à partir de la Restauration. Balzac en parle beaucoup dans ses romans. Et donc, on voit apparaître à la fois l'ancêtre des taxis, hein, et puis les transports en commun, c'est-à-dire des omnibus, puis des tramways sur rail. Et tout ça est tiré par entre 6 et 8 chevaux. Et ces chevaux, il faut qu'ils apprennent évidemment à tirer droit, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Et puis ce qui était surtout fatigant côté animaux, c'était le fait de s'arrêter à chaque station pour prendre des passagers.
Et repartir.
Et ça veut dire freiner. Alors qu'on a la diligence, enfin le tramway derrière qui pèse, et puis il faut repartir. Et c'est ça le plus épuisant, hein, parce que lorsque la vitesse est prise, il y a une partie de la force qui est prise par l'inertie, mais lorsqu'il faut redémarrer, là c'est très difficile, et ces chevaux ont des conditions de vie relativement dures.
Qu'est-ce qu'on en sait de la vie de ces chevaux ?
Alors on le sait parce qu'on a plein de rapports, on a les archives des compagnies parisiennes de transport, on en a aussi dans les grandes villes, à Lyon, à Marseille, etc. Et on arrive à voir ce qui se passe par la rotation des chevaux, par les problèmes d'alimentation. Alors, selon les compagnies, ces chevaux sont plus ou moins bien alimentés, parce que la compagnie peut être plus ou moins en bonne santé financière. Il y a aussi tout le problème des conducteurs, qui est très important, parce que d'un conducteur à l'autre, le travail du cheval peut être deux fois plus dur qu'avec un bon conducteur. On le sait maintenant, un animal stressé va beaucoup moins bien travailler, beaucoup moins bien produire. C'est l'évidence, mais maintenant c'est prouvé. Et évidemment, c'est quelque chose qui se rajoute à l'époque, hein. Et trouver un bon conducteur, c'est vraiment la hantise des compagnies à l'époque.
Vous dites que c'était vraiment difficile pour les chevaux, mais que le travail le plus dur, c'était les chevaux qui étaient utilisés pour la bâtellerie.
Oui, le travail le plus dur, effectivement, alors pas sur les canaux, parce que là, il n'y a pas de courant, mais lorsqu'il fallait remonter les fleuves, or la bâtellerie sur les fleuves, c'était pour les remonter. Par exemple, le Rhône, on pouvait descendre avec le courant assez facilement, on n'avait pas besoin de chevaux, mais ensuite, pour remonter, là, il fallait les chevaux. Et là, le travail est très dur, parce que il faut lutter contre le courant, donc il faut tirer la péniche, et en plus l'équipage est sur le bord le long de la voie de halage, et par rapport à la péniche la corde est tendue de travers, et donc
oui.
La force est de biais, et ça désarticule évidemment les chevaux, etc. Et là, c'est la durée de vie la plus brève, hein. Un cheval de bâtellerie est épuisé au bout de 5 ans.
Pas de compassion à l'époque pour ces animaux, très peu.
Très peu, parce que c'est
comme ça. La vie des hommes est dure aussi.
La vie des hommes est dure aussi, et c'est marche ou crève. Hein.
À propos de marche ou crève, extrait de Voyage avec un âne dans les Cévennes de Robert Louis Stevenson.
À l'examen, le matin du 4 octobre, Modestine fut déclarée hors d'état de poursuivre le voyage. Elle aurait besoin d'au moins 2 jours de repos, d'après le garçon d'écurie. Or, j'étais maintenant pressé d'arriver à Alais pour mon courrier. Comme je me trouvais à présent dans une région civilisée, avec service d'omnibus, je décidai de vendre mon ami et de partir par la diligence de l'après-midi. Ce ne fut qu'après être bien installé auprès du conducteur et roulant à travers un vallon rocailleux aux oliviers rabougris que j'eus conscience qu'il me manquait quelque chose. J'avais perdu Modestine. Adieu. Et si jamais...
Il n'a pas toujours été très gentil avec Modestine, Stevenson.
Non, parce que là, nous avons la version officielle. Hein. Ça, c'est la version publiée dans l'ouvrage, le journal Voyage avec un âne dans les Cévennes. Mais il a écrit un journal au jour le jour. Et là, il dit exactement ce qui se passe. Et Modestine, par exemple, à la fin du voyage, elle n'a pas besoin de 2 jours de repos, comme il le dit dans la version officielle, mais de 2 mois de repos. Parce qu'il y est allé très fort, à la fois parce qu'il connaît pas les ânes, et il a du mal à se faire obéir, et à la fois parce que dans les campagnes, tout le monde lui a dit qu'avec un âne, il faut y aller franc. Hein. Donc il tape franchement, et à la fin, Modestine, l'arrière-train est couvert de sang. Et il la lâche, il la revend. Il est très gai quand il la revend, hein, parce qu'il en avait marre de cette âne qui lui posait plein de problèmes.
En tout cas, il a écrit quelque chose qui représente l'atmosphère d'une époque.
Ah oui, tout à fait, bien sûr. On voit bien comment, à l'époque, l'âne est considéré comme un animal un peu bête et qu'il faut pousser pour qu'il travaille. Alors qu'en fait, on sait maintenant qu'un âne stressé ne va pas ruer ou vraiment à l'extrémité. Il va, au contraire, se prostrer sur lui. C'est pour ça qu'il se referme, il ne bouge plus, etc. Et donc, on pense qu'il faut encore plus taper pour qu'il avance.
Éric Baraté, vous travaillez sur ce sujet depuis 40 ans, c'est vous qui me l'avez dit. Il n'y a pas des moments où vous êtes submergé par l'émotion ?
Alors, j'ai travaillé 25 ans côté humain. Donc, côté humain, on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe côté animaux. Hein. C'est depuis une quinzaine d'années que je travaille côté animaux pour voir ce qu'ils ont vécu. Là, évidemment, on se rend compte à quel point ça a été dur pour eux. Mais je pense qu'effectivement, ça n'est pas facile. Mais en même temps, c'est une part de réalité qu'il faut montrer.
Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle. Et son tic-tac si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit comme un hibou, l'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule. Du Poitou, du Poitou, dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou, qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh ma pendule, je t'adore, ah laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour, mon amour. Une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, il est temps de venir à bout de cette.
cette fable ridicule, de cette crête à testicules qui chante l'aurore à minuit. Il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie, qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles, en écoutant son Don Juan lui seriner sa séguedille. Pour imaginer son trépas, point n'est besoin d'être devin, la pendule sonne l'heure du repas. Coq au vin, coq au vin, dans une ferme du Poitou, cocolico, un coq émet une pendule.
Claude Nougaro, Le coq et la pendule.
Les aventuriers sur France Inter.
Sur un tout autre plan, le président de la République a couronné les héros du concours agricole. La championne des laitières a dominé avec difficulté le champion des taureaux et celui des percherons, parmi tant d'autres.
Et nous voilà à la campagne, Éric Baratet. Vous êtes professeur à l'Université de Lyon, spécialiste de l'histoire des animaux. Et on va parler des animaux de rente. Là encore, les bœufs sont mis au travail 3000 ans avant Jésus-Christ, puis les chevaux.
Oui, alors au départ, la domestication, c'est surtout, apparemment, hein, parce qu'on n'a pas de texte écrit, mais ça semble surtout pour le lait, la viande. Et ce n'est qu'à partir, en France par exemple, qu'à partir 2000 ans avant Jésus-Christ, qu'on voit se développer ce qu'on appelle la polyexploitation. C'est-à-dire qu'on va demander à ces animaux d'avoir d'autres tâches que celles de fournir de la viande et du lait. Et ce sera le cas notamment, évidemment, pour les vaches et les bœufs que l'on va mettre au travail. Mmh. Et donc, les bœufs dans les fermes vont servir à tirer chez les Gaulois la moissonneuse. Et puis, dans les bonnes exploitations, on a des bœufs, mais dans beaucoup d'endroits, en fait, on a des vaches. Et jusqu'au 19e siècle, les vaches sont au travail. Hein. Nous, maintenant, on pense les vaches à viande, les vaches à lait. À l'époque, ça n'intervient qu'en fin de vie, au bout de 20-25 ans, mais l'essentiel du travail, c'est de tirer la charrette, tirer la charrue ou la raire, etc., etc.
Car avoir des bœufs, c'était déjà être un peu riche.
Ah, mais même avoir des vaches, hein, au milieu du 19e siècle, avoir une vache, c'était un signe de richesse.
En préparant cette émission, j'ai découvert que le plus dur, c'était d'être une vache urbaine.
Oui, alors les vaches urbaines, elles se développent surtout à partir du 18e siècle, parce que commence à se développer la demande en lait, hein, la consommation de lait, qui est encore faible. Hein, au 19e siècle, un Parisien boit un verre de lait par jour, hein, guère plus, mais ça augmente petit à petit, et à l'époque, il n'y a pas de transport frigorifique. Donc, si on veut avoir du lait de vache ou du lait de chèvre, on consomme beaucoup de lait de chèvre, et bien, il faut qu'elle soit sur place. Donc, on multiplie les étables urbaines, et il y a des étables urbaines, effectivement, qui sont pitoyable dans le sens où les vaches ne sortent pas, restent sur place dans des conditions hygiéniques catastrophiques parce qu'on ne s'en rend pas compte que la saleté est un problème à l'époque. Et on a des textes qui racontent que ces vaches qui ne bougent pas, qui ne sortent pas, elles ont les sabots qui augmentent et au bout d'un moment, elles n'arrivent même plus à se tenir sur leurs quatre pattes. Et donc, elles sont dans des conditions extrêmement difficiles. Elles ne sortent pas, contrairement par exemple aux vaches rurales.
On va parler des moutons, donc les moutons qui ont été élevés assez rapidement pour la laine, mais aussi pour autre chose et pour faire du fumier.
Oui, alors les moutons, on ne se rend plus compte de l'importance des moutons maintenant. Hein. On a encore les vaches, les cochons, mais les moutons, il y en a beaucoup moins. Vers 1850, il y a en France autant de moutons que de Français, hein, une trentaine de millions. Il y a quasiment un mouton par Français. Mmh. Hein. Parce qu'ils sont extrêmement importants, ils sont importants pour la laine. C'est sans doute ça qui a été à l'origine du développement des industries avec donc l'industrie textile. Et puis ensuite, il y a eu aussi le fumier. Les moutons étaient très importants, le fumier de mouton était très bon. Et donc, dans le bassin parisien, par exemple, il y avait énormément de moutons que l'on mettait sur les champs en jachère ou après avoir moissonné. Et puis, ils étaient là donc
pour engraisser
avant l'invention des engrais industriels.
Et quelle était la grosseur des cheptels jusqu'au 19e, même au début du 20e ?
Alors, c'était des petits animaux, hein, jusqu'au 19e siècle, en taille, en poids. Ils étaient très petits. Une vache normale, début du 19e siècle, c'est 300, 400 kilos, hein. Maintenant, c'est entre 1 et 2 tonnes. Et tous ces animaux ont grandi en taille, ont grandi en poids. Et que ce soit les chiens, les moutons, etc., ça a été le produit de la fabrication, du croisement, de la sélection des races.
Ah oui.
Hein, du 19e siècle, où on a créé toutes les races que l'on connaît maintenant. Hein. La Normande, la Montbéliarde...
La Primolstein.
La Primolstein, un peu au 20e siècle. Les Boulonnais, les Ardennais du côté des chevaux. Et puis la plupart des races de chiens actuelles. Hein, le Bobtail, le Boxer, le Berger allemand dont on parlait, ont été créés à cette époque.
Pour en revenir aux vaches, la production de lait a explosé ces dernières années. Entre deux guerres, une vache produisait en moyenne 1700 litres de lait par an. Aujourd'hui, c'est plutôt 5700 litres, sans parler des vaches qui produisent encore plus.
Qui produisent maintenant plus, hein, bien sûr. Oui, oui, une vache au début du 19e siècle produisait quelques litres de lait, et encore, c'était quand elle avait le veau. C'était pour nourrir le veau, on faisait quelques fromages avec, mais on vendait très peu de lait de vache. C'était surtout les chèvres, finalement. D'ailleurs, Proust en parle dans La Recherche du Temps Perdu. Il y a dans sa rue un chevrier qui passe chaque matin, et Françoise, la célèbre Françoise, va chercher, avec un bol, elle va chercher le lait pour que Marcel puisse boire ce lait chaud.
Éric Baratet, vaut-il mieux être une vache ou une chèvre en 2023 ou en 1923 ou en 1823 ?
Alors, ça dépend des conditions. Ma mère, qui gardait les vaches dans les années 40 en Haute-Loire, me racontait qu'on ne sortait pas les vaches avant que la rosée ait disparu dans les champs. Parce que la vache, c'était un capital. Alors là, chez ses grands-parents, il y avait 3 vaches. Avoir 3 vaches vers 1940, c'était un signe de richesse. Hein. Donc on ne les sortait que vers les 10-11 heures du matin. On les rentrait tous les jours. Là maintenant, évidemment...
C'était des vaches heureuses.
C'était des vaches relativement heureuses, oui. Ma mère était assez horrifiée dans les années 80 quand elle voyait que ces vaches restaient 6 mois dehors et ne rentraient plus et subissaient les orages, etc. etc. Donc les conditions varient beaucoup d'une époque à l'autre, mais aussi d'une région à l'autre, d'une exploitation à l'autre, et en fonction évidemment des hommes.
Oui, parce qu'aujourd'hui les troupeaux n'ont plus du tout la même taille, certains animaux ne sortent plus du tout.
Alors dans les élevages industriels, ils ne sortent plus, effectivement. Et puis maintenant, il y a des vaches, les vaches à viande notamment, qui peuvent se retrouver 6 mois dans les champs, mais qui se retrouvent sans aucun abri pour la pluie, sans aucun pour l'humidité de l'herbe la nuit, pour les grosses chaleurs l'été. On voit maintenant avec nos canicules. Et ces vaches, évidemment, doivent être énormément résistantes. Alors ça ne fait pas forcément une bonne qualité de viande derrière, mais ça c'est un autre problème.
C'est un autre sujet, même si l'époque est plus aujourd'hui à la compassion animale. J'aimerais qu'on reparle des ânes, parce qu'on a un extrait de La Comtesse de Ségur, extrait de Mémoire d'un âne. Écoutez.
Mon nouveau maître n'était pas mauvais, mais il avait la sotte manie de vouloir faire travailler tout le monde, et moi comme les autres. Il m'attelait à une petite charrette et il me faisait charrier de la terre, du fumier, des pommes, du bois. Je commençais à devenir paresseux. Je n'aimais pas à être attelé et je n'aimais pas surtout le jour du marché. On ne me chargeait pas trop et l'on ne me battait pas, mais il fallait ce jour-là rester sans manger depuis le matin jusqu'à 3 ou 4 heures de l'après-midi. Quand la chaleur était forte, j'avais soif à mourir. Et il fallait attendre que tout fût vendu, que mon maître eût reçu son argent, qu'il eût dit bonjour aux amis, qu'il lui faisait boire la goutte. Je n'étais pas très bon, alors je voulais qu'on me traitât avec amitié, sans quoi je cherchais à me venger. Voici ce que j'imaginais un jour. Vous verrez que les ânes ne sont pas bêtes, mais vous verrez aussi que je devenais mauvais.
Alors, ce qu'il imaginait, on le saura une autre fois. C'était une lecture faite avec la très belle voix de Jérôme Boulet. C'est toute l'ambiance du 19e, ça, Éric Baratet.
Tout à fait. Alors, les Mémoires d'un âne de la Comtesse de Ségur, c'est un texte très anthropomorphisé, puisque oui, l'âne parle, écrit, etc. Mais sur la condition des ânes, C'est remarquable. Elle fait une très belle photographie de la condition des ânes au milieu du 19e siècle. Et quand on compare ce qu'elle raconte avec d'autres types de sources, ça correspond exactement. Et là, ce qu'elle dit sur le travail des ânes, c'est tout à fait ça. Et ce qu'elle dit sur la nécessaire empathie entre l'homme et l'animal pour que ça marche bien, c'est vrai aussi. À l'époque, c'est connu. Alors, même si c'est connu, il y a beaucoup de conducteurs ou de propriétaires qui peuvent être violents. Mais à l'époque, on sait quand même que plus on fait attention, et mieux l'animal se comporte.
C'était Rosine Murphy, The Universe.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Comme tous trois retournés à l'accrochage, Bébert et Jeanlin y arrivaient aussi, avec un train de berline. Il y eut un arrêt pour la manœuvre des cages, et la jeune fille s'approcha de leur cheval, le caressa de la main en parlant de lui à son compagnon. C'était Bataille, le doyen de la mine, un cheval blanc qui avait 10 ans de fond. Depuis 10 ans, il vivait dans ce trou, occupant le même coin de l'écurie, faisant la même tâche le long des galeries noires, sans avoir jamais revu le jour. Il semblait y couler une existence de sage, à l'abri des malheurs de là-haut. Du reste, dans les ténèbres, il était devenu d'une grande malignité. La voie où il travaillait avait fini par lui être si familière qu'il poussait de la tête les portes d'aérage et qu'il se baissait afin de ne pas se cogner aux endroits trop bas. Sans doute aussi, il comptait ses tours, car lorsqu'il avait fait le nombre réglementaire de voyages, il refusait d'en recommencer un autre. On devait le reconduire à sa mangeoire.
Pour écrire Germinal, Émile Zola était descendu à la mine. Nous voici donc à la mine avec les chevaux et avec Éric Baratet, historien, spécialiste des animaux. Très bien raconté cette histoire.
Ah oui, là aussi c'est un témoignage remarquable. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, il est descendu, il a vu ce qui se passait.
Il a enquêté.
Il a enquêté et il a très bien vu la nécessaire collaboration là aussi des animaux, ces initiatives des chevaux qui effectivement, pour réduire leur travail, ouvrent par exemple les portes, ça c'est extrêmement fréquent, les portes coupent feu, ou alors font attention à l'évolution du sol ou du plafond, parce que ces mines, l'allure change quasiment d'une journée sur l'autre. Hein. Ça travaille beaucoup, donc on peut se retrouver avec une poutre qui s'est effondrée, et si l'animal ne fait pas attention, il va se taper la tête contre. D'ailleurs, il y a des mines où on met un espèce de casque frontal aux chevaux pour éviter justement qu'il y ait un accident trop grave. Et puis, il peut y avoir des trous dans le sol avec des déformations de rails, et donc là, ça oblige l'animal à remonter par exemple la pente, ça veut dire que ça devient beaucoup plus dur pour lui, donc il va s'arrêter, il va prévenir, etc. Et là, évidemment, tout dépend si le conducteur est attentif ou pas. Alors on a des conducteurs qui sont attentifs, qui vont par exemple remettre en place la roue si elle a déraillé, et puis il y a d'autres conducteurs qui laissent faire l'animal et qui s'épuisent, etc. Donc là, c'est très variable aussi.
Les premiers chevaux sont descendus en 1820 et les derniers sont remontés dans les années 20 du XXe siècle.
Alors non, les derniers, c'est beaucoup plus tard. Le dernier, c'est autour du début des années 70. Mais c'était un cheval symbolique, hein. Mais c'est vrai que ça a duré en gros un siècle, entre les années 1820 et les années 1930. Auparavant, c'était des pousseurs humains qui poussaient les chariots. Et puis on s'est rendu compte qu'avec les chevaux, évidemment, le rendement était plus fort, parce que ces chevaux étaient plus forts.
Et rien que la descente à la mine était terrible.
Ah, pour les chevaux, énorme. Zola le dit aussi dans Germinal. Ces chevaux qui étaient au départ surélevés, alors d'abord on les mettait par terre, on les harnachait, puis ensuite on les levait littéralement, et un cheval qui perd pied, qui n'a plus ses sabots, là il panique totalement, et ensuite on les descend dans les puits à l'obscurité totale, hein. Il n'y a pas de lumière évidemment, et là il y a des chevaux qui arrivent au bout de 200 mètres, 300 mètres, ça peut aller jusqu'à 1 km de profondeur, qui arrivent totalement stressés, hein. Certains, il leur faut un quart d'heure, une demi-heure pour se remettre, on les couche sur le flanc, et puis il y en a qui arrivent, alors c'est pas une majorité, quelques-uns arrivent, crise cardiaque, hein. Et ça, c'est un énorme stress, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas les sortir.
Et certains restent 10 ans.
Ah, ils restent, le temps du travail, ils restent à la mine, parce que les remontées et les redescentes, ça serait un stress beaucoup trop fort pour eux. Donc on ne peut pas. Et puis il y a un deuxième problème. À partir de l'entre-deux-guerres, on va avoir des ascenseurs. Donc le problème est réglé pour les chevaux. Ils n'ont plus cette sensation de se retrouver dans le vide. Mais le problème, par exemple, en 36, lors des grèves de 36, où dans certaines mines, on fait remonter les chevaux parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le travail va reprendre. Mais le problème, c'est que lorsque le travail reprend, les chevaux ne veulent plus descendre.
On les comprend.
Ils ont redécouvert l'air, le soleil, l'herbe, etc. Et on a beaucoup de mal à les faire descendre.
Et quelle était la vie de ces chevaux à la mine? Ils travaillaient énormément, ils étaient dans des écuries qui étaient pas forcément confortables, ils n'avaient pas...
Alors, si les conditions de vie étaient relativement bonnes, même meilleures souvent qu'à l'extérieur, simplement, il pouvait y avoir des abus de travail. Par exemple, il y avait, on sait, on a des témoignages, des équipes de nuit chargées de faire les travaux. Au lieu de porter, par exemple, le matériel, et ben, aller chercher un cheval qui avait pourtant fait sa journée, elle lui demandait de porter le travail. Autrement dit, le cheval faisait deux journées en une, quoi. Hein. Et c'était ça qui était très dur pour les chevaux, ou alors, là encore, le mauvais comportement de conducteur. Et le problème, c'est que les mines employaient souvent des jeunes adolescents, parce que lorsqu'ils étaient trop grands, ben on les mettait au front de taille. Et ces jeunes adolescents n'avaient pas la connaissance, la patience, etc. avec les chevaux, et souvent employaient la violence. Et pour les chevaux, employer la violence, c'est extrêmement stressant, et ils réagissent à ce moment-là.
C'est vrai que les chevaux, quand ils avaient fait leur quota de travail, ils le savaient?
Oui,
ou c'est une légende?
Non. Alors on sait maintenant qu'ils ont la possibilité de remarquer ça. Hein. Donc ils ont des horloges internes, etc., des horloges biologiques. Donc ils savaient à peu près s'ils avaient fait leur temps. Ou certains arrivaient à deviner, par exemple, si on leur mettait des wagons supplémentaires. Ils repéraient, alors pas forcément en comptant, mais ils repéraient à leur manière. Et puis certains savaient, par exemple, montrer qu'ils ne voulaient plus travailler, puis ils rentraient d'eux-mêmes à l'écurie. Pour aller manger. Hein. Et un cheval violenté aussi pouvait se mettre en grève, c'est-à-dire arrêter de travailler. Et les vétérinaires savaient très bien qu'un cheval qui ne voulait plus travailler, alors qu'il avait bien travaillé auparavant, Il savait que c'était un signe qu'il avait été violenté.
Éric Baratet, aujourd'hui, le regard sur les animaux a changé, même si vous nous avez expliqué qu'être un animal de ferme, aujourd'hui, c'est pas forcément le synonyme d'une bonne vie. Mais on utilise des animaux pour faire de la médiation. Il y a des chats, il y a des chiens, il y a même des chevaux à l'hôpital.
Oui, et ça repose un peu sur cette idée que les hommes voyaient bien dans les mines, c'est-à-dire que les animaux sont capables de détecter les comportements et les tempéraments des humains. Et ça repose là-dessus, hein. Et donc le cheval ou le chien médiateur, notamment dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, etc., eh bien, ils sont capables de détecter l'état émotionnel du patient, ce patient est content de voir l'animal ou pas, hein. Par exemple, à l'hôpital cardiologique de Lyon, on emploie un cheval qui parcourt l'étage et il rentre là où il a envie de rentrer. Et en fait, c'est en fonction de l'état du patient.
Il n'y a pas qu'à Lyon. Écoutez cet extrait de l'émission Grand Reportage de RFI, diffusée le 26 novembre 2018, Peyo à l'hôpital.
Je peux vous demander pourquoi vous regardez là, à travers la vitre de l'hôpital ?
Parce que je vois le monsieur qui s'occupe des animaux et je le connais très bien. Il a un cheval qui s'appelle Peyo, qui passe dans les chambres des malades. Et en fait, il y a mon fils qui est hospitalisé et il vient souvent le voir. Parce qu'il sent qu'il aime bien les animaux, certainement. Puis bon, on lui fait des caresses, tout ça. Et il va voir les enfants aussi en pédiatrie. Donc il est aimé cheval à l'hôpital de Calais. Il est adopté.
On était à Calais. Je trouve ça très fort.
Oui, oui, oui. Ça montre bien à quel point on peut collaborer, humains et animaux, si on fait attention aux uns et aux autres. Et les animaux sont très sensibles à ça, très sensibles. On l'a nié, on n'a pas voulu le voir pendant des siècles. Mais ils ont la capacité de bien nous analyser.
Alors vous êtes historien, mais qu'est-ce qu'on sait de la représentation mentale des animaux ? Vous qui vous intéressez vraiment à ça.
Ah ben maintenant on sait beaucoup de choses, vous aurez des invités qui vont pouvoir vous en parler.
C'est vrai.
Hein, mais sur l'état émotionnel, sur l'état de conscience, etc. Il y a un article qui est paru il n'y a pas longtemps sur l'empathie chez les poissons, chez une espèce de poisson. Ce sont des évidences qui sont en train d'être prouvées. Auparavant on pouvait le savoir, les paysans du XVIIIe siècle savaient que leur vache avait un tempérament, un caractère, des émotions qu'elle pouvait avoir, vivre de la peur, de la jalousie, etc. Mais ça n'était pas prouvé. On pouvait toujours, comme Descartes, soutenir que ce n'était que des machines. Mais là, maintenant, les preuves s'accumulent. Et c'est ce qui nous permet, d'ailleurs, de faire la médiation maintenant et d'employer les animaux autrement.
On commence à les regarder autrement aussi.
Et on les regarde autrement, bien sûr. Et plus on les regarde autrement, et plus on s'aperçoit à quel point notre relation change et qu'on peut tirer beaucoup plus, tirer au bon sens du terme, hein, pas exploiter, mais tirer beaucoup plus de choses, ne serait-ce qu'avec son chat et son chien de compagnie, tout simplement.
C'est vrai que les artistes, mais aussi les intellectuels, les écrivains, s'intéressent vraiment à ce sujet. Vous qui organisez un colloque à Lyon sur le monde animal tous les ans, vous le savez.
Oui, oui. Moi, j'ai vu la société changer à partir de 2007. Alors, me demandez pas pourquoi, mais il y a beaucoup plus de monde dans les conférences. Les gens sont maintenant intéressés. C'est devenu vraiment, une question sociale qui intéresse beaucoup de gens.
Merci beaucoup, Éric Baratet, pour ces histoires qui ne sont pas toujours très belles, mais très intéressantes. Merci à Éric Baratet, auteur de nombreux ouvrages consacrés aux animaux. Alors, un conseil de lecture, monsieur Baratet ?
Je vais oser renvoyer à un livre que j'ai écrit en publiant en 2012, Le point de vue animal, une autre version de l'histoire qui évoque justement ce côté animal, le vécu des animaux dans les phénomènes historiques.
Marilyn Patoumatis, préhistorienne et la conseillère scientifique des aventuriers. Cette émission est réalisée par Jérôme Boulet, attachée de production Caroline Prota. La programmation musicale est signée Djoubaka. La semaine prochaine, nous parlerons de la domestication animale depuis la préhistoire. Il sera beaucoup question du chat, mais si vous êtes impatient, toute la série des aventuriers est disponible en podcast sur l'appli Radio France.